bienvenue dans votre émission 30 minutes dans la peau d'un artiste.
Une émission à destination de tout public, une émission pour découvrir une passion, l'amour pour votre métier.
Une émission pour la présentation d'un projet original. 30 minutes dans la peau d'un artiste.
Sur le 106.3 FM et sur le www.ram72.net.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine 30 minutes dans la peau d'un artiste sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM. Pour ce magazine, aujourd'hui, nous recevons Nicolas Rosier, peintre et écrivain. Monsieur Rosier, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Eh bien écoutez, oui, je me suis installé récemment dans la région, donc nord de la Sarthe. Moi, je suis originaire de Champagne et de Reims, plus précisément. Voilà, j'ai vécu les 4 ou 5 dernières années à Paris, enfin du moins avant mon installation, encore toute récente, ça fait à peu près 2 ans. Et j'exerce, on va dire, ou je pratique, hein, quel est le verbe qui convient le mieux, l'écriture, le dessin et la peinture, eh bien depuis, on va dire, à peu près ma 20aine d'années. Enfin, j'ai commencé plutôt par le dessin et la peinture lorsque j'avais 17-18 ans, et l'écriture est intervenue un peu après ma 20aine d'années. Voilà. Et depuis, je pratique les 2 disciplines et 2 médiums, si vous préférez. Voilà.
Alors oui, hein, vous êtes peintre et écrivain. Déjà, comment vous avez découvert l'écriture ?
Alors, l'écriture, peut-être d'une façon un petit peu perlée ou de loin en loin, déjà avec les quelques lectures proposées pendant ma scolarité ou au collège, mais ce qu'on pourrait appeler le déclic ou le processus qui allait me conduire à écrire et à en faire quelque chose qui allait devenir essentiel dans ma vie quotidienne, c'est intervenu plutôt après le secondaire. Donc, il y a un contexte qui est plutôt extrascolaire. Hein, j'avais du mal, comme nombre d'auteurs d'ailleurs, à trouver stimulante des lectures qui me semblaient être par trop cadré par l'environnement que j'estimais probablement très contraignant de l'école, du collège et du lycée. Donc ce sont plutôt des découvertes d'auteurs dont je parle souvent. Enfin, il m'arrive de parler lorsque on m'interroge à propos de ce déclenchement, de cette impulsion dans l'écriture, de ma découverte d'un livre de J.M.G. Le Clésio, Le Livre des Fuites, un ouvrage de 69, que j'ai découvert à l'occasion de mes pérégrinations en bibliothèque, alors que j'avais, on va dire, 19, 20, 21 ans. C'est un petit peu la période charnière. Et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé par ricochet des auteurs qui allaient compter énormément pour moi, qu'il s'agisse de poètes comme Roger Gilbert Lecomte, Antonin Artaud, ou même des romanciers comme Céline, Luc Dietrich, plus encore Julien Gracq, puisqu'on parle de cette porte de l'Ouest qui se tend à moi donc depuis 2 ans. Voilà, s'il est bien un auteur emblématique de la région au sens très large, c'est bien Julien Gracq, et voilà typiquement un des auteurs qui m'ont absolument fasciné, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et qui ont sans doute participé à ce début d'impulsion vers l'écriture et mes premières tentatives écrites, donc voilà, à l'époque.
Oui, donc des vrais auteurs inspirants pour vous. Alors sinon, comment s'est passé l'apprentissage de cet art de l'écriture ?
Bah écoutez, non pas que ça me paraisse saugrenu de parler d'apprentissage, je sais que ça appartient plutôt à la culture anglo-saxonne qui depuis, je ne sais pas, je dirais 1 ou 2 décennies, propose outre-Atlantique des cursus et des écoles dédiées à l'écriture de fiction particulièrement. Mais dans la vieille Europe, je ne crois pas que de pareilles choses existent. Il existe la filière classique dite des lettres, hein, lettres classiques, lettres modernes, voire la philosophie, les sciences humaines en général. Mais pour ce qui est de l'apprentissage de l'écriture, si on entend par là l'écriture de fiction, parce que l'essai, par exemple, la catégorie de l'essai, effectivement, là, on peut l'atteler plus facilement à une formation universitaire, hein, effectivement. Des gens qui possèdent, mais qui acquièrent et possèdent donc une culture classique, jusqu'à évidemment les auteurs plus contemporains et même la création d'aujourd'hui peuvent, en enchaînant les mémoires, voire en allant jusqu'à la thèse, et bien être en position de devenir critique d'art ou universitaire, chercheur. Et alors là, on est dans la catégorie de l'essai. En revanche, pour ce qui est de l'écriture qu'on pourrait qualifier de création, et sans faire un saut trop abusif, l'écriture d'imagination, j'ai bien l'impression que chacun se débrouille comme il peut avec une culture qui se façonne, non pas à sa guise, mais au gré des accidents qui constituent les aléas d'une vie et d'une trajectoire singulière. Alors ça a exactement été mon cas. Alors on pourrait dire évidemment ce mot, même si je le prends toujours avec des pincettes, parce qu'il est un peu fourre-tout, mais certainement que j'entre dans la catégorie, si l'on peut dire, des gens qu'on qualifie d'autodidactes. Voilà. D'autant que n'ayant pas poursuivi des études très longues. Moi, j'ai une licence de lettres, hein. C'est mon niveau d'études. Je n'ai pas poursuivi plus avant. Donc, tout ce qui est de l'ordre de mes connaissances et des lectures que j'ai faites au fur et à mesure, eh bien, ça a été plutôt lié à des rencontres en personne, de personnes de chair et d'os, bel et bien vivantes, mais également les méandres et les ricochets qui se produisent lorsqu'on lit et qu'un auteur vous embraye sur une autre lecture du même auteur ou d'autres auteurs apparentés, etc. Et donc l'apprentissage de l'écriture se fait, je pense, comme pour beaucoup, dans un principe de va-et-vient entre des lectures qui provoquent des impacts émotionnels, hein, plus ou moins importants, plus ou moins déterminants, et qui nécessairement influent sur, eh bien, déjà les premières tentatives. Moi, je me souviens que très précisément que ma mère, à l'époque où j'habitais encore au domicile maternel, m'avait offert un carnet très très tôt qui traînait dans un tiroir que je n'ai pas tout de suite utilisé. Et à un moment donné, avec quelques, il n'y a pas de retard, mais en tout cas avec un petit différé, je me suis mis à peu près à l'époque précisément de ma lecture du livre des fuites de Le Clésio, qui me donnait l'impression qu'eh bien moi-même, j'allais pouvoir tenter en tout cas de me frotter à ce jeu de langage verbal et tout ce qui va être de l'ordre de la formulation et des tournures et des combinaisons de mots, tout ce qu'on appelle l'écriture. Et j'ai commencé ainsi donc à travailler à des petits pavés de prose, hein, qu'on pourrait apparenter génériquement à des pavés de prose poétique. Et ça a été, on va dire, ces petits travaux sur carnet, l'embryon de ce qui pourrait être qualifié d'apprentissage. Voilà un petit peu comment ça a pu se passer.
Et qu'est-ce que vous aimez justement dans l'art de l'écriture ?
Alors écoutez, ce que j'aime dans l'art de l'écriture, ça c'est une question qui ne va pas forcément de soi, en tout cas pour des éléments spontanément. On parle souvent du maniement des mots, voilà, jouer avec les mots. Alors évidemment, on peut y mettre quantité de façons de jouer avec les mots. Alors précisément, ce ne serait pas véritablement la dimension ludique, puisque effectivement, on sait que certains auteurs, sans leur faire ombrage de quelque façon que ce soit, mais le mouvement qu'on appelle par exemple l'oulipo, avec des gens comme Georges Perec ou Raymond Queneau, et ces fameux exercices de style par exemple, là, on peut typiquement parler d'un jeu avec les mots, même si on sait que ça dépasse bien souvent la seule dimension légère du ludique. En ce qui me concerne, l'écriture, je l'ai plutôt attachée à des fascinations esthétique. Et c'est sans doute là un des ponts ou une des passerelles qu'on peut faire entre ce qui m'a toujours fasciné de plastique dans le dessin, la peinture et même d'ailleurs le cinéma, même si c'est un art que j'ai jamais pratiqué, mais en tout cas un rapport fort à l'image, qu'immédiatement j'ai envisagé de façon indissociable de l'écriture. Ce qui fait que dans ma propre écriture, non pas que je le décrète, mais on me le fait remarquer en quelque sorte par des retours réguliers, on constate que la part descriptive, la construction de décors, qu'il s'agisse des arrière-plans, du cadre dans lequel, quand il s'agit de fiction, les personnages, quand il s'agit des personnages eux-mêmes ou des situations, eh bien, à même l'écriture, ce qui prend le pas souvent, c'est l'aspect plastique, la construction d'images et la quête certainement d'une forme de beauté à travers ces images. Donc voilà un trait, on va dire, majeur qui évidemment n'en exclut pas bien d'autres parce que, quand, par exemple, je suis amené à parler, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, de ce qui est le premier de mes romans à avoir été publié. J'en ai écrit un premier qui est toujours au tiroir et le deuxième et le premier à avoir été publié en septembre dernier. Lorsqu'on m'interroge sur ce roman, bien sûr, je tente de dégager quelques lignes de force, ce qui figure d'ailleurs dans la quatrième de couverture, donner quelques pistes, quelques voies pour entrer en matière. Mais en définitive, dans le processus même d'écriture qui conduit à écrire 200 ou 250 pages, tout ce qui n'est pas prémédité, ce qui n'a pas fait l'objet d'une planification, d'une anticipation, est généralement le plus passionnant. C'est-à-dire ce que l'on dit au fil de la plume, comme en passant. Et là, bien évidemment, il est impossible, après coup, sans être d'une lourdeur phénoménale, d'en faire l'inventaire. C'est impossible. Et pourtant, c'est une des parts les plus passionnantes. C'est ce qu'il n'avait pas été prévu dans le processus de création. Et d'ailleurs, je dois bien admettre que, tant pour ce qui est du volet de dessin et de peinture que celui de l'écriture, la notion d'ébauche, d'esquisse, de planification, de prévision, je le mets vraiment entre parenthèses parce que la notion, on va dire, d'improvisation, de ce qui se passe véritablement in situ dans l'action, que ce soit au fil de l'écriture ou lorsque je trace les premières formes sur un support, c'est là que m'apparaissent les surgissements les plus déterminants à partir desquels je travaille. Même si, bien sûr, j'ai mes obsessions, mes hantises, ça c'est bien évident.
Alors sinon, quel genre justement d'écrit vous faites ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ceci ?
Alors, en ce qui concerne concerne ce qu'on pourrait qualifier de le genre auquel je me suis adonné jusqu'alors. En écriture, j'ai plutôt découvert de prime abord, ou ce qui m'a arrêté, ce qui m'a fasciné et a exigé une exploration, c'est davantage le genre de la poésie. Ce qui fait que lorsque les quelques articles qui ont pu m'être consacrés ou les informations qui reviennent assez régulièrement et qui s'attachent à mon nom vont avoir partie liée au genre de la poésie. Alors que les choses sont peut-être moins tranchées que cela en vérité. Mais il est vrai que lorsque je viens à l'écriture, on peut considérer que ce soit sous la forme de la prose ou avec aussi des incursions versifiées, c'est le genre de la poésie qui l'emporte, ça c'est certain. Ce qui fait que, on va dire, durant ma vingtaine et ma trentaine, la poésie, tant par la lecture que par l'écriture, était certainement prédominante. Bah, pour l'intensité et la compression de la forme courte, le fait de pouvoir dire beaucoup en très peu de mots. La poésie peut être définie de bien des façons différentes, mais c'est tout de même l'art écrit de la très haute densité, hein, de l'expression comprimée vraiment à son paroxysme. Et d'ailleurs, à ce titre-là, l'écriture dite poétique entendue de cette façon, elle me concerne toujours, hein, c'est toujours d'actualité. Or, depuis, on va dire, 4 ou 5 années à peu près, ce qui l'emporte vraiment haut la main dans mes préoccupations écrites relève de la narration, du récit avec personnage, situation, péripéties, alors que je ne me suis pas projeté dans la posture de romancier. Ça me semblait être de l'ordre de compétence ou d'un talent. En tout cas, moi, je ne me semblais pas avoir les moyens. Il me semblait que par la poésie, il y avait ce qui n'est pas faux non plus d'ailleurs, hein, mais simplement, mes priorités sensibles se sont un petit peu déportées. Mais il m'a semblé pendant longtemps que la poésie est une forme de court-circuit prodigieux qui allait directement, passez-moi l'expression, droit au but dans la touche de certains enjeux. Oh, voilà que on pourrait, d'une façon un peu grandiloquente, rattacher à, même si c'est un peu abstrait, à l'absolu. Hein, qu'il s'agisse de l'amitié, de la fraternité, de l'amour, de tout ce qui va y avoir partie liée à la beauté et la grandeur. Hein, on va dire les grands thèmes d'une espèce de romantisme de tous les âges, hein, et non pas celui du 19e siècle. Eh bien, la poésie me semblait faite par sa forme, ses exigences, ce qui me taraudait le plus. Eh bien, selon une pente que je n'ai pas vu venir, ni préméditée, le fait de raconter, qui d'ailleurs préexiste déjà en poésie, eh bien, s'est étendu, a pris de plus en plus de place, j'allais dire dorénavant, en tout cas depuis quelques années. C'est véritablement un laboratoire d'écriture tourné vers le récit, le fait de raconter et d'inventer des histoires. Une littérature d'imagination, où les personnages sont inventés. Bien évidemment, comme n'importe quel autre être humain, je ne peux pas inventer absolument tout de toute pièce. C'est évidemment un perpétuel recyclage d'une forme de sélection et de tri sélectif dans la mémoire, bien évidemment. Il faut des points de référence, mais il s'agit d'invention dans la mesure où il n'y a pas de clé en main empruntée à la façon dont, par exemple, Flaubert écrit Madame Bovary en dilatant un fait divers, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, ça ne me dérangerait pas du tout de procéder de la sorte, mais le fait est que pour ce qui va être presque mon troisième roman et qui paraîtra à la rentrée, dans les trois cas de figure, à chaque fois, je me suis attaché et plus à inventer à peu près tout dans l'histoire, des personnages, leur situation, ce qui leur arrive, et même jusqu'à une géographie que je laisse suffisamment évasive pour donner l'impression qu'elle est imaginaire. Voilà.
Alors parlons maintenant aussi du fait que vous êtes peintre. Depuis quand justement cet art de la peinture est rentré dans votre vie ?
Mais écoutez, j'ai plutôt commencé entre guillemets par la peinture, comme beaucoup, sinon la plupart, ou voire tous les enfants. Je suis passé par le crayon, le stylo, les griffonnages, les tentatives sur papier à la couleur, que ce soit avec pinceau à la main. Et ces expériences de l'enfance qui, pour un certain nombre d'individus, se poursuit durant l'adolescence, ça a été mon cas, avec un intérêt pour la bande dessinée. Hein. Je suis d'une génération où le magazine Strange, un petit peu le pilier des comics à la toute fin des années 70 au début des années 80, avait beaucoup de succès. J'ai commencé très tôt, pas si tôt que ça d'ailleurs, adolescent, jeune adolescent, à tenter de recopier ce qui était plutôt de l'ordre de l'illustration ou de la bande dessinée. Et ensuite, il y a eu une forme de convergence entre ma découverte d'un certain nombre de films ou d'un certain type de cinéma, plutôt tourné vers le fantastique, voire même l'horreur. Une fascination aussi pour l'aspect sculptural d'un certain nombre de monstres qui ont fait que je me suis trouvé à une forme de confluence où je recopiais beaucoup de choses, hein, au crayon, au stylo, donc je pratiquais beaucoup le dessin, sans sans pour autant me décider à m'orienter, par exemple, au lycée, vers la bande dessinée. J'étais entouré de personnes qui étaient très douées, d'ailleurs, pour ce genre de choses, mais je me sentais un petit peu en marge de ce genre de choses. Et la découverte de ce qu'allait être pour moi, finalement, le dessin, non pas d'illustrateur ou dessinateur de bande dessinée, mais le dessin de peintre, eh bien, je le dois, là, ça manque un petit peu d'originalité, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je le dois à la découverte du peintre et dessinateur autrichien, mondialement connu, Egon Schiele, qui a influencé et influence toujours tant d'artistes peintres en devenir. Et là, j'avais donc, on va dire, 16 ou 17 ans. Enfin, c'était en plein milieu de ma période lycéenne. Et j'ai découvert, via quelques reproductions, des diapositives, peut-être un exposé d'ailleurs. Et ensuite, je me suis procuré une de mes premières, on va dire, monographies d'artistes. Et coup sur coup, donc, la découverte de ce peintre autrichien avec un autre peintre, lui, qui vivait encore à l'époque, un Suédois, qui s'appelle Bent Lindström. Peut-être pas aussi mondialement connu, mais enfin c'est quelqu'un qui a une notoriété quand même vraiment importante. Et là, c'était vraiment un peintre comme on dit, quelqu'un qui travaille non pas à la prima, mais avec une peinture très épaisse, avec une palette très vive, des coloris très agressifs, et cette matière exubérante, extravagante, quasiment des bas-reliefs peints à l'huile, m'ont littéralement là, subjugué. Et cette découverte quasiment coup sur coup de Schiele et Lindström véritablement m'ont là, tous les mots, les mots les plus excessifs pourraient être utilisés. C'est les conséquences, je vais bientôt avoir 50 ans, ce dont je vous parle, ça a eu lieu, j'avais 17 ans. L'impact, si j'ose dire, est toujours de mise. Les mots, peut-être parfois un peu trop lourds, tels que vocation, enfin, importe peu. Le fait est que l'impact, la commotion émotionnelle d'alors, eh bien, a engagé une pratique qui, pour moi, a toujours cours. Voilà.
Et justement, par rapport à cette pratique de la peinture, vous êtes autodidacte ou pas du tout ?
Oui, je vous le disais à propos de l'écriture, mais ça vaut également pour le dessin et la peinture. Je suis aussi d'une génération où, ce qui n'était pas tout à fait récent, mais où c'était particulièrement appuyé, les professeurs d'art plastique, puisque j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque la filière A3 avec une spécialité art plastique, enfin en tout cas l'enseignante qui était la nôtre, tendait d'une façon assez explicite à décourager, enfin décourager, c'est un peu excessif, mais il y a un peu de ça quand même. Là j'ai connu une période de conflit à l'époque. Décourager les élèves qui s'intéressaient au médium de la tradition, je veux dire le dessin, la sculpture, la peinture. On essayait de nous préorienter, de nous influencer en direction des nouveaux médiums, plutôt photographie, la vidéo, les installations, pour faire simple, ou les travaux dits conceptuels. Alors là, voilà, je n'entrerai pas dans une espèce de polémique un peu stérile, mais le fait est qu'il y avait un petit peu cette dichotomie. Et comme j'étais particulièrement fasciné par les médiums plutôt de la tradition, j'étais pas véritablement encouragé dans ce goût. Et je voyais venir une formation post-bac qui aurait été la suite, c'est-à-dire où on m'aurait pris par la main, voire forcé la main, pour m'orienter vers telle ou telle pratique. Ce qui a eu pour conséquence, mais que j'écarte cette possibilité d'une école d'art, craignant que l'on décourage ou qu'on, d'une certaine manière, on déforme ce qui pour moi relevait d'un enthousiasme que je ne voulais absolument pas détourner et par rapport auquel je voulais pas transiger, ce qui m'a conduit en définitive à me retrouver, et je le paye encore un petit peu aujourd'hui d'ailleurs, dans une forme d'isolement, comme beaucoup de celles et ceux qui, de ma génération aussi d'ailleurs, ont persisté. À persister, tous les mots sont compliqués. Vous découvrez à 17, 18, même à 20 ans, les grands noms de la peinture. Et dans le même temps, dans l'acquisition d'une culture artistique et littéraire générale, vous entendez ici et là que, eh bien, un certain nombre d'autorités intellectuelles prétendent décréter que la peinture est morte depuis les années 70. Bon, eh bien, ça n'a pas suffi à dissuader et un certain nombre de confrères et de consoeurs, si je puis dire, ni moi-même. Sinon que pour l'apprentissage, eh bien, cela supposait donc une forme de décelement, de solitude, et s'en référait beaucoup plus à l'intuition qu'à des guides ou à des formateurs bienveillants. Voilà.
Et justement, comment vous exercez cet art de la peinture ?
Alors, en ce qui concerne la technique, là aussi, vous parlez des médiums de la tradition et des instruments et des matériaux qui vont avec. C'est toujours le cas. J'ai débuté avec des matériaux associés à ce qu'on appelle les techniques sèches, c'est-à-dire le crayon, l'encre, le stylo à billes aussi, qui est pour moi vraiment une importance particulièrement marquée au tournant des années 2000. D'autant que j'avais découvert que le célèbre sculpteur et peintre Alberto Giacometti avait été l'un des premiers dans les années 50, à l'époque où finalement où a été inventé l'outil du stylo à billes, à utiliser ses qualités de souplesse et de grande maniabilité. Le principe de la bille dans le stylo du même nom permet effectivement de ne pas avoir d'entrave au niveau du geste et du poignet. Rien ne résiste, tout est coulant, fluide et délié. Alors j'ai beaucoup aimé cet outil-là au tournant des années 2000. Sinon, très régulièrement, depuis mes premières expérimentations, ce sont les matières les plus classiques qui m'ont occupé. occupait, à savoir la peinture à l'huile, la peinture à l'acrylique, parfois aussi dans le travail sur papier avec du lavis, de l'aquarelle, de la gouache, donc des techniques à l'eau. Mais ce qui est privilégié, on va dire, là, depuis 2 ans, c'est à nouveau la peinture à l'huile, la peinture à acrylique. J'ai fait un détour par le pastel pendant 4 ou 5 ans. Là, pendant ma période parisienne, la période durant laquelle j'ai vécu à Paris, je pouvais difficilement, dans le lieu de vie qui était le mien, assez exigu, m'adonner à la peinture, hein, et avec la place que ça prend. Donc j'ai privilégié, ce qui me convenait très bien d'ailleurs, hein, le dessin, et pendant, quasiment 5 ou 6 ans, le pastel sec, donc sur papier, a été quasiment mon outil exclusif. Et j'ai tenté donc depuis 2 ans, donc de réinvestir ce qui a été expérimenté sur papier avec le pastel, par un retour, hein, je suis revenu là à mes premières armes qui étaient plutôt d'acrylique et d'huile, donc la peinture sur toile, généralement. Ça m'est arrivé sur bois aussi, mais c'est le plus généralement sur toile. Sinon au manoir de Couam, là où je travaille depuis un mois et demi, c'est également l'acrylique, mais là je parle cette fois-ci de support, mais des supports d'une taille sur lesquels j'avais jamais travaillé jusqu'alors.
Et oui, en effet, vous êtes en résidence au manoir de Couam jusqu'à la fin du mois de juin. Alors déjà, comment vous avez découvert ce manoir ?
Alors la découverte s'est faite assez simplement. Ma compagne et moi, nous promenions à l'occasion de la journée du patrimoine. Et après une première visite sur un site dont vous me pardonnerez, j'ai oublié le nom, non loin de Saint-Rémy-du-Val, j'espère que les gens me pardonneront, nous avons découvert le manoir de Couam qui se situe à une dizaine de kilomètres de notre habitation, donc en plus c'est vraiment juste à côté, dont on avait découvert quelques informations, peut-être des gens nous en avaient parlé. Et donc à l'occasion de cette journée du patrimoine, on a découvert le lieu, non seulement le manoir lui-même et ses différents bâtiments, mais aussi le contexte du paysage, hein, qui est absolument typique de la région et qui est absolument somptueux. Et au manoir de Couam se trouve notamment un lieu que les propriétaires appellent les arcades, qui est en quelque sorte un espace de à peu près de 14 mètres sur 8, avec une très belle hauteur de plafond, dans lequel il aurait arrivé d'inviter des artisans, notamment pour le marché de Noël, outre l'exposition de septembre, donc annuelle, à l'occasion desquelles sont invités donc des sculpteurs. Et donc, lors de cette journée du patrimoine, on a découvert un petit peu tout cela en même temps, et ça a fait un petit peu son chemin en moi. J'en ai parlé à ma compagne, qui avait trouvé le lieu également particulièrement propice soit à un projet d'exposition, et à l'époque je pensais pas nécessairement au fait de travailler sur place, mais c'est un petit peu le croisement d'une envie qui allait naître 6 mois plus tard, ce qui fait que je pense que c'est à la sortie de l'hiver ou au tout début du printemps dernier, l'envie un petit peu dans la continuité du travail que je faisais sur, on va dire, une peinture sur chevalet, travaillant en atelier à mon domicile, j'ai eu envie de passer à une taille, un gabarit de format sur lequel je n'avais jamais travaillé, et s'est posé bien évidemment le problème des conditions et de l'espace approprié. Et là, on s'est ressouvenu du manoir du Couam, d'autant qu'on avait rencontré une première fois le propriétaire qui nous avait fait l'amitié de se déplacer pour découvrir mon travail à mon domicile. Et donc, Pierre Allôme ainsi que Pierre-Édouard, donc les deux propriétaires du manoir, ont très gentiment proposé d'investir les fameuses arcades là qui me permettent de travailler sur des formats de très grande taille. Et en l'occurrence, en considération du lieu, j'ai programmé dès avant la résidence cet objectif de 6 très grands formats qui, à la fin du mois de juin, là j'ai bien avancé, occuperont le lieu et seront présentés donc à celles et ceux qui nous feront l'amitié de se déplacer sur place.
Alors oui, en termes de travail justement, qu'est-ce que vous exposez dans ce manoir ?
Alors, c'est un petit peu greffé sur le travail qui spécifiquement s'est fait sur place. C'est une sélection de travaux assez récents réalisés à mon domicile depuis 2 ans. Donc vraiment une série encore très fraîche, présentée sur l'aile gauche de cet espace, des arcades. C'est Pierre Allôme d'ailleurs qui en a plutôt eu l'initiative. Moi, je restais véritablement plutôt calé sur cet objectif des très grands formats. Et c'est vrai que l'idée était très belle de finalement marier, entre guillemets, la série courante, d'autant plus qu'elle était extrêmement récente. Certaines toiles n'étaient même pas tout à fait sèches. Elles sont donc présentées, ces toiles, de dimensions évidemment plus modestes. Il y a tout un ensemble qui est présenté sur un des pans de mur, donc accessible et visible par les visiteurs. En même temps que des toiles que, je reviens au très grand format, qui sont à la fois travaillées, au tout début je me suis rendu compte, c'est un petit peu un processus qui s'est mis en place, des fameux très grands formats, je commence à les travailler au sol et très rapidement je les redresse, je les mets à la verticale et là je les travaille au mur. Ce qui fait que presque jusqu'au vernissage final ou au finissage, il y aura donc cette combinaison de travaux relativement récents faits à mon domicile, là vraiment des châssis entoilés, hein, des toiles au sens classique du terme sur châssis, présentées sur un pan de mur, en compagnie des premières très grandes toiles que je suis venu faire sur place. Il y en aura 6 en tout à la fin, et pour celles et ceux qui viendraient à la fin du mois de juin voir le résultat de ces 2 mois de travail, il y aura donc 6 grands formats qui occuperont de manière assez équilibrée tout l'espace en question.
Et quels sont justement les horaires et les jours pour profiter de cette exposition? Quand est-elle visible concrètement?
Écoutez, concrètement, elle est visible tous les jours, week-end compris. Alors, il peut arriver, de toute façon, les propriétaires sont quasiment toujours sur place, ou quand ils ne sont pas là, j'y suis. Mais on a voulu que l'expo soit accessible vraiment plus facilement possible et avec un maximum de temps de créneau d'ouverture. Maintenant, je conseillerais aux visiteurs de plutôt venir l'après-midi parce que, bon, non pas que la lumière le matin soit inintéressante, et bien au contraire, il y a parfois les propriétaires sont présents. Donc, ouverture, c'est le matin, après-midi et tout le week-end. Maintenant, moi, je recommande simplement de venir davantage d'après-midi parce qu'on a plus de chances de m'y voir au travail. Plus encore peut-être le week-end parce que je suis peut-être un petit peu plus disponible, mais pour l'ouverture, voilà, potentiellement, depuis le début de cette résidence au mois de mai, c'est tous les jours, week-end compris. On va donner simplement un butoir, c'est-à-dire de manière un peu conventionnelle, jusqu'à 18h. Voilà, faut quand même laisser un peu d'intimité aux propriétaires du lieu.
Alors sinon, suite à cette exposition au manoir de Quam, est-ce que vous avez bien sûr des projets?
Mais écoutez, le projet, c'est déjà, parce que ça, c'est, vous savez, le problème des projections, c'est que parfois on a l'impression d'être un petit peu à deux endroits en même temps, et là, ce n'est pas du tout le cas. J'essaie de bien me concentrer sur ce que je suis en train de faire et de terminer. Donc, le manoir de Quam, et là, je pense que je suis autorisé à le dire, outre le vernissage de fin qui aura lieu donc le 26 juin, on en reparlera tout à l'heure probablement, les toiles, les 6 grands formats réalisés resteront a priori jusqu'au 15 août, ce qui fait qu'il y aura une période de visibilité qui sera reconduite pendant presque un mois et demi. Donc ça, c'est pour moi une bonne nouvelle, et c'est finalement parmi les projets immédiats, c'est un de ceux auxquels je tiens le plus, bien évidemment. Alors, plutôt qu'un projet, il y a une autre actualité, c'est-à-dire que j'ai pris part à une exposition collective qui s'intitule « Les nouveaux horizons de l'art », qui est situé à Charenton, donc c'est vraiment aux portes de Paris, juste à côté de Bercy. C'est sur le métro ligne 8, à 50 mètres de la station Liberté. Et cette exposition qui a été montée, en octobre dernier, pour les raisons que vous le savez, les reports liés aux restrictions sanitaires. Et elle sera ouverte jusqu'au 3 juillet. Voilà. J'y présente 7 toiles de format honorable, donc c'est déjà une voie d'entrée possible pour les Parisiens ou les gens qui vivent en banlieue parisienne, en région parisienne en tout cas, pour une première voie d'accès à mon travail s'ils sont à proximité. Mais c'est jusqu'au 3 juillet, me semble-t-il. Voilà. Quant à des projets alors à plus long terme, à moyen ou plus long terme, alors je préfère ne pas le divulguer pour l'instant, mais il y a 2 projets d'exposition qui pourraient être de belle envergure, cette fois-ci une exposition personnelle, mais qui ne serait pas avant l'horizon 2022 voire 2023. Et j'y travaille.
Alors sinon, est-ce que vous avez des contacts pour ceux qui souhaitent découvrir votre travail?
Oui, tout à fait. Alors, ce à quoi je renverrai volontiers celles et ceux qui souhaiteraient se renseigner, qu'il s'agisse de la trajectoire littéraire, de mes publications ou de mon travail plutôt pictural, eh bien, je renvoie déjà à mon site sur lequel figure un grand nombre d'informations, des extraits, de la presse. Également une actualité, ça c'est vrai que je peux l'évoquer rapidement. Généralement, des textes auxquels je travaille ont comme destination la publication sur papier et l'impression. Et j'ai lancé une série qui a changé de nom déjà 2 ou 3 reprises. Ça, c'est l'intérêt du travail du Work in Progress, qui s'intitule Un garçon impressionnable, où je mets en ligne sur Facebook, et c'est à mon nom, évidemment, sur le mur Nicolas Rosier. Les articles en question donc, sont mis en ligne sur mon site au fur et à mesure. Et cette série d'articles ouvertes, je ne sais pas combien j'en ferai exactement, mais je les écris très régulièrement. C'est tous les 3 ou 4 jours, il y a une nouvelle contribution. Ça s'appelle Un garçon impressionnable. Et ce sont des articles qui généralement font 2 feuillets et demi. C'est un format qui peut se lire dans la foulée. Le format, je ne l'ai pas prémédité, mais en définitive, la longueur des textes ressemble. Et là, j'y aborde, alors on ne va pas dire des souvenirs, mais des références qui m'ont marqué, en tout cas, lorsque j'étais adolescent ou jeune adulte. Il y a un roulement, je parle généralement une fois d'un peintre, une autre fois d'un cinéaste, une autre fois d'un écrivain ou d'une œuvre en particulier, mais ça peut aller aussi à un sportif. Donc voilà, le spectre est assez large et je le traite là, à la différence de ce que j'ai pu faire avec mes œuvres, mes ouvrages de poésie ou le volet, on va dire, romanesque. Il s'agit davantage d'articles et donc de textes beaucoup plus concis, on va dire, voilà. Alors, je renvoie donc à mon site qui est nicolasrosier.fr où là, donc, il y a toute une série également de reproductions de pastels et d'huile sur toile, huile et acrylique sur toile, également quelques photos prises, un peu de documentation sur la résidence qui est en cours. Donc, c'est vraiment une façon d'être en phase avec voilà, ce à quoi je travaille en ce moment, l'actualité, qu'elle soit picturale ou littéraire. Et peut-être serait-il bon de vous donner également les coordonnées du propriétaire du manoir pour celles et ceux qui voudraient, le cas échéant, être des nôtres à l'occasion donc de ce qui sera un peu le finissage ou le vernissage final. Donc le finissage aura lieu le samedi 26 juin à partir de 18h. Donc chacune et chacun y serait le bienvenu. Vous pouvez, d'ailleurs c'est un petit peu la réponse est souhaitée par les propriétaires du manoir, leur écrire. Ah, et là je vous donne le courriel. P comme Patrick. Ensuite le tiret du bas, hein, le tiret du 8, pas le tiret du 6, mais le tiret du 8. Allôme. A. 2 L. E. aume@orange.fr. À quoi j'ajoute peut-être le numéro de portable, toujours de Pierre Allôme, 06 82 55 49 21 pour toute information ou éclairage supplémentaire. Et peut-être de préciser, pour situer géographiquement le manoir de Couam, l'endroit se situe entre Ancine et Bourg-le-Roi. Voilà.
Alors sinon, souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
Oui, peut-être ajouter ceci hein, pour celles et ceux qui seraient intéressés par la prospective liée à mon travail d'écriture. D'Asphalte et de Nuée, qui a été publié en septembre par les jeunes éditions Incursion, éditions qui sont basées donc au nord de la Sarthe. Et ça, je pense que vraiment, je mets un point d'honneur à le dire parce que c'est encore très récent et très frais. Les mêmes éditions Incursion publieront mon deuxième roman qui s'intitule L'île batailleuse. Ce sera peut-être l'occasion pour nous d'en reparler ensemble si vous le souhaitez. Et L'île batailleuse se réfère très largement à ma découverte du paysage spécifique de ce magnifique bocage qui nous entoure autour de Neuchâtel-en-Saunois, l'endroit où je réside. Voilà, ça, c'est ce à quoi je voulais inviter les auditeurs, même si c'est pour l'instant évidemment une information un peu prématurée parce que cette publication devrait avoir lieu à la rentrée au sens large, septembre ou octobre, je ne sais pas encore précisément quand, mais l'horizon est, voilà, est à la rentrée.
Alors Monsieur Rosier, je vous remercie puis je vous dis à bientôt sur notre antenne.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Votre magazine 30 minutes dans la peau d'un artiste est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles, 106.3 FM.